France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un artiste dont la carrière est un véritable roman français, populaire, inspirant et fédérateur. Depuis ses débuts avec les Psychiatres de la Rime jusqu'à ses succès en solo, Soprano a toujours su parler à toutes les générations sans jamais trahir ses valeurs. Il a rempli les plus grandes salles, vendu des millions d'albums et accompagné des moments de vie de plusieurs générations. Et il s'apprête à vivre un nouveau chapitre de cette incroyable aventure. 4 dates à l'Accor Arena, les 11, 12, 13 et 14 décembre prochains. 4 soir pour fêter la musique, la famille et le rap comme lui seul sait le faire. Ce soir, on va donc revenir avec lui sur cette tournée événement, sur son parcours hors norme, sur ce que ça signifie de durer, d'inspirer et peut-être aussi de continuer à rêver grand. On est avec Soprano pour une heure à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va, Sopra ?
Ça va, j'adore cette petite voix qui arrive derrière, juste après toi. Mehdi Maizi, c'est pas mal, c'est pas mal.
J'ai toujours rêvé de ça. Tu vois, c'est mon petit égo trip à moi.
Ouais, mais c'est pas mal.
Je l'ai dit, il y a 4 dates à l'Accor Arena, mais bien sûr, ça fait partie d'une tournée qui est plus globale, mais ouais. C'est un peu une forme de fête, forcément, l'Accor Hotel Arena. 4 dates, c'est rare d'enchaîner comme ça, 4 dates de suite. Qu'est-ce que ça signifie, cette tournée, pour toi ? Qu'est-ce qu'elle représente ? On sait que c'est pas ta première tournée, évidemment. C'est toujours un moment important, les tournées pour toi. Il y a toujours un show particulier. Moi, j'ai eu la chance de te voir au Stade de France, notamment, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette tournée, précisément ?
Ben, cette tournée, c'est un peu une tournée... je sais que je vais dire un truc de fou, mais on est revenu à taille humaine. Il y avait des gens qui m'ont dit, ouais, ça fait longtemps que tu... la tournée d'avant, oui. on était en train de faire tout, on a fait tous les stades de France. Tu vois, on avait fait Bordeaux, le stade Bordeaux, Lyon, tout ça. Et ça faisait longtemps que les gens ne nous avaient pas vus à taille humaine.
Toi, taille humaine, c'est Bercy, quoi.
J'essaie de te dire qu'à la base, c'est vrai. Quand les producteurs ont commencé à parler de la tournée, on dit, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, les gars, je pense qu'on va se refaire un peu... tu vois, c'est un truc de fou, ce que je vais dire. Mais attention, c'est pas de la prétention. Mais on s'est dit, je leur ai dit, venez, on se refait des zéniths, mais cette fois on essaye de toute l'année de rester par semaine dans une ville. Ça veut dire que par exemple, la semaine dernière on est resté à Nantes 4 jours, la semaine d'avant on était à Caen 4 jours, mais on reste, ça nous permet de développer un peu plus le truc, un peu plus de monde peut venir nous voir et aussi ça nous ramène à vouloir essayer de faire encore plus la fête à taille réelle, c'est encore mieux.
Est-ce que c'est un moyen pour toi aussi peut-être de te re-challenger, de faire ces salles-là, parce que même si tu peux remplir plus grand, est-ce que c'est aussi peut-être un autre rapport à la performance, au public, peut-être que c'est peut-être pas les mêmes morceaux exactement que tu joues, enfin est-ce que ça change le show?
C'est pas pareil. Moi, je dis toujours que quand tu fais des concerts dans des stades, c'est pas pareil que quand tu fais des concerts même à l'Olympia, c'est pas pareil qu'au Zénith, tu vois. C'est vraiment... Il faut avoir les morceaux, parce que vite, quand tu remplis des grands endroits, tu es sûr et certain qu'il faut que tu sois extrêmement populaire et que tu as extrêmement beaucoup de gros morceaux, parce que vite, ça va se sentir dans la fosse que voilà, s'il n'y a pas un morceau que tout le monde et unanime connaît, ben ça va se voir plus que dans dans une salle beaucoup plus petite qu'un stade. Mais attention, ça ne veut pas dire que Zénith et Bercy, c'est des petites salles.
Bien sûr, non mais évidemment, mais c'est juste que c'est plus petit que ce que tu as fait sur la tournée précédente.
Merci de préciser, moins grand.
C'est pas plus petit, c'est moins grand. Voilà. Tu parles de popularité. Et en préparant l'émission, je regardais que tu étais encore justement dans, tu sais, ce classement des personnalités préférées des Français et des Françaises. Comment tu vis ça ? Au-delà du fait qu'évidemment, j'imagine que ça t'honore, mais est-ce que c'est aussi une pression d'être tout le temps dans les personnes préférées ? Et du coup, peut-être qu'on a aussi moins le droit à l'erreur aussi.
Je te dis la vérité, moi je pète les plombs parce que je fais rien de spécial. Tu vois, je suis pas un artiste sulfureux qui est dans les faits divers ou dans autre chose. Je suis vraiment le mec qui fait son boulot, qui fait son chemin, père de famille, patron et artiste. Je fais rien d'autre, tu vois.
Tu postes pas tous les jours sur les réseaux non plus.
Déjà, les réseaux, j'en ai pas. Ouais. Tu vois, c'est pas moi qui les gère, c'est ma sœur et mes amis. Donc du coup, j'ai une vie normale, tu vois. Donc du coup, quand je vois ça, ça me fait halluciner. Après, la pression, j'essaie d'être le plus moi possible. Donc du coup, quand c'est plus toi possible, ben, tu n'as aucune pression. Tout ce que tu fais, quand par exemple je cherche mes mots, ben, c'est comme ça que je suis quand il n'y a pas les caméras. Donc du coup, je ne triche pas. Je suis moi. Et je pense que c'est ça que les gens aiment de moi, qu'on n'aime pas ma musique. Mais on va dire ouais, mais Sopra, je l'aime bien parce que voilà, il est ce qu'il est. Il ne s'invente pas de vie.
Est-ce que des fois, ce n'est pas embêtant d'être celui qu'on aime toujours, tu sais, le gentil, parce que les gens ils te voient aussi comme ça,
ben
des fois
ouais,
tu peux être
ouais.
ton image de gentil, et des fois tu dois avoir envie de faire tomber la table ou de...
Ah je la fais tomber, je crie, je m'énerve, mais même dans ça, la dernière fois il y avait un de mes musiciens pendant la tournée, on était dans le tourbus, j'étais énervé pour un truc et tout, je me rappelle plus c'était quoi, il était à côté comme ça, il me regarde. Ah, ça, c'est pour toi, c'est comme ça être énervé. Il a dit, si c'est ça être énervé, waouh! Il m'a dit, moi j'ai vu d'autres artistes, c'est pas comme ça. Après, j'ai dit, mais en fait, c'est parce que j'ai un mindset qui est très, peut-être, plus j'essaie d'être positif, plus je vis mieux les choses et je trouve des solutions. C'est ma façon d'être.
Est-ce que dans cette tournée, tu joues ce morceau?
Dans le sud, la rage frappe au soleil, super.
Des fois le refrain.
Ok, donc ça évidemment c'est Le Son des Bandits,
ouais.
Qui est le premier gros single des Psychiatres de la Rime, ton groupe.
Ouais.
Et donc ouais, est-ce que tu continues de jouer ce morceau?
Ben en fait je fais tous mes morceaux dans ma tournée. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont dans la salle, ils ont 40 ans. Et eux, ils attendent Alla Bien, ils attendent Le Son des Bandits, ils attendent tous les morceaux que j'avais fait de mon premier album.
Ouais.
Et chaque fois, je fais. La dernière fois, ça m'a fait rire. Je commence à faire un morceau à moi qui s'appelle Hala Hala.
Bien sûr, un gros single à l'époque.
Le morceau, il part. J'ai vu des parents pousser leurs enfants. Ils étaient comme... Mais je pense que les enfants, ils devaient les regarder d'une manière. Mais c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas possible. Ça, c'est rigolo.
Qu'est-ce que ça fait justement de parler à ces générations différentes? Parce qu'il y a des gens qui sont très jeunes, mais sur des enfants qui t'écoutent. Il y a des gens de mon âge, il y a des gens plus âgés. Comment ça se fait? Est-ce que du coup ça pose des questions dans le show? Est-ce que tu dois du coup faire un show qui est assez équilibré, qui doit parler à des publics très différents? Et on sait que et une personne de 10 ans, elle n'écoute pas la même musique que moi.
Bien sûr.
Donc comment on trouve cet équilibre-là dans le show?
Alors le truc, c'est très simple, c'est que quand moi je fais mes shows, c'est l'histoire et le message, le concept de l'album précédent. Ça veut dire que par exemple là c'est Freedom, le concept c'est le monde il est tombé, je suis sur la statue de la liberté accroché parce que la tête elle est tombée, mais sur scène il y a une grande tête de la statue de la liberté, moi je suis accroché dessus et je rappe mon premier morceau, il y a toute une histoire et du coup j'essaye de rentrer les morceaux dans cette histoire.
Okay.
Et il y a des morceaux peut-être qui sont sacrifiés parce qu'ils ne collent pas à l'histoire, mais il y en a d'autres qui collent très très bien et qui sont dans le schéma de la mise en scène et tout ce que je prépare dans le show. C'est un peu comme ça que je travaille.
Puisque tu parles de concerts qui associent à un album, il y a quelques temps sur les réseaux, tu postes pas souvent, mais alors toi ou ta sœur, du coup, les gens de ton équipe avaient posté quelque chose avec un plan.
Ouais.
Il y avait un plan avec des dates et avec une fin de carrière. Annoncé,
ouais.
Je ne sais plus exactement de quelle année on se parlait.
2030,
voilà. Donc c'est finalement, c'est dans 5 ans.
Ouais.
Avec pas mal de choses qui avaient été annoncées avant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est d'actualité? C'est quelque chose que tu as posté comme ça parce que tu avais besoin de le sortir à ce moment-là? Ou est-ce que tu vas vraiment arrêter de sortir des albums dans 5 ans?
Je pense que, regarde, en fait, comment répondre? L'industrie du disque actuel fait que j'avais même pas besoin de le dire en 2030, vu que maintenant les gens consomment moins d'albums, consomment plus des titres, et même quand tu sors des albums c'est beaucoup plus compliqué pour être sûr que tout le monde va les écouter du début jusqu'à la fin. Donc en fait le plan que j'ai envoyé, c'est plus des projets, des organisations par rapport adaptées à l'industrie, à la période. Par exemple, au mois de novembre, là, on est au mois de novembre-octobre, j'avais prévu un projet qui s'appelle Joy Boy. Ça va être sur scène, il va avoir un truc tout organisé avec bien sûr un, deux morceaux inédits pour le projet. En fait, j'essaie de m'adapter et ce plan me permet de jusqu'en 2030, parce que 2030, en fait, c'est pas le plus important, c'est pas la fin de la carrière, c'est de pouvoir faire le Champ de Mars. C'est mon objectif premier pour...
C'est-à-dire performer là-bas.
Voilà, faire le Champ de Mars.
Pourquoi c'est ton objectif? Pourquoi?
Parce que... au-delà de... Parce qu'on a fait beaucoup de choses. Mais c'est parce que je trouve que le message, il est trop fort. Je viens de Marseille, petit des quartiers nord. Petit à petit, on a monté. On a ouvert la voie des stades aujourd'hui. Tout le monde, c'est presque vrai. Maintenant, le Stade de France, on dirait que c'est devenu la cigale, sans être péjoratif, mais on a l'impression que c'est plus un événement. Ouais. Ben, en fait, de continuer à arriver encore plus loin et amener le truc encore plus loin, un petit jeune des quartiers nord à Marseille, ben, il va aller sur le Champ de Mars, juste en bas de la Tour Eiffel, faire un concert et réunir toutes les générations qui m'écoutent depuis tellement, tellement, tellement d'années. La dernière fois, on faisait le quota, là, la semaine dernière, comme je te disais, on faisait 4 dates. Le jeudi, on a vu que des quarantenaires dans la salle. Le vendredi, il n'y avait que des étudiants. Après, le samedi, il y avait tout le monde. Il y avait tout. Dimanche, que des familles. Je me suis dit, c'est un truc de fou.
Ouais.
Et ça, c'est un truc très possible sur le Champ de Mars. Ça veut dire qu'il peut toujours avoir quelqu'un qui aime le rap dur qui va venir, comme un mec qui aime mes morceaux qui ont vu très populaires, qui peut venir. Donc c'est un peu mon objectif, mon plan,
c'est
le Champ de Mars.
Très bien. Soprano, je propose qu'on écoute un morceau de toi, un morceau récent, c'est Tema Love. Est-ce qu'on s'écoute ça?
Allez, vas-y.
Tu, ça te va?
Ben, bien sûr.
Ben, let's go. Alors Soprano, Tema Love, tout de suite.
Étoile, ma voie lactée, t'es mon double et ma moitié, t'es mon jutsu, mon karaté, t'es mon feuilleté au chocolat, t'es mon ticket de tombola, t'es mon scénar de Coppola, t'es mon sang, t'es ma Dracula, t'es ma Pagani Zonda, t'es mon trésor de Oda, t'es ma force, t'es mon Yoda, t'es mon goût, t'es ma granola, t'es ma finale de zizou, t'es mon bling bling, t'es mon bijou, t'es mon toi, ma team, mon tout, ma dopamine, toi t'es ma love, t'es ma t'es ma love, t'es ma love, t'es ma love, t'es ma love. Chinois, t'es ma chichi, ma Bulma, t'es mon abracadabra, t'es mon vaccin, mon sparadrap, tu es ma remontada, t'es mon bonbon tagada, t'es mon bisou, mon poutou, t'es ma clé, mon passe-partout, mon marabout, mon gourou, je suis ta poupée vaudou, t'es mon poker, mon atout, tout, t'es mon toi, ma team, mon tout, ma dopamine, ouais, t'es ma love, t'es ma love, t'es ma love. Ouais, t'es ma love,
Tema Love de Soprano qui est notre invité ce soir dans À la régulière.
France Inter. Mehdi Maizi. À la régulière.
Soprano, tu es là, je l'ai dit, notamment ces 4 dates à l'Accord Arena, les 11, 12, 13, 14 décembre. Avant de continuer à parler de ça, j'aimerais te poser quelques questions.
Ouais.
Quiz rapide.
Vas-y.
Tu dois choisir entre des choses qui viennent de Paris et des choses de Marseille. Il faut répondre honnêtement.
Ok, d'accord.
Soprano. Akhenaton, donc rappeur mythique de Marseille, membre d'IAM, ou Cool Chain. Membre mythique, rappeur d'NTM.
Regarde, il n'y a même pas quelques... Tout à l'heure, j'étais avec Akhenaton dans texto. Bien sûr, je vais te dire Akhenaton.
Évidemment.
C'est mon grand frère. S'il n'y a pas Akhenaton, je ne suis pas assis devant toi. C'est lui. En plus, je crois même qu'il avait une émission dans ses bureaux, là, une fois. On était venus. C'était fou de le voir là et tout.
Oui, il avait une émission sur Move avant. Tu vois, tout à fait.
Exactement. On était dans ses bureaux là. On était au début avec les psychiatres. On était venus là et tout. Bref, tout ça pour dire oui, non, Akhenaton. Mais Cool Chain, par exemple, si tu me lances La Fièvre maintenant, je te fais son couplet par cœur. On en parlait tout à l'heure.
On lance La Fièvre.
Voilà.
Non, ça c'est Petit Frère.
Ça c'est Petit Frère.
Attends, La Fièvre.
Attends, écoute, ce morceau, je te le connais par cœur. Mais même cet album, on en parlait hors.
Tout à fait. Paris sous les bombes.
Paris sous les bombes, pour moi, il m'a matrixé. Je le connais par cœur. Le premier concert que j'ai fait, c'est celui d'NTM pour cet album.
Ok.
J'étais.
C'est la première fois que tu vois des rappeurs sur scène.
Première fois que je vais dans un concert tout court. J'étais comme un fou, l'énergie. C'est eux qui m'ont donné ce truc d'énergie sur scène, de donner, de transpirer.
Sûrement le meilleur. Enfin, même si IAM c'était extraordinaire.
IAM, ils m'ont appris le concept. Ça veut dire de faire des concepts sur scène.
Mais en plus, leur premier album s'appelle Concept. C'est la cassette. Et c'est intéressant parce que ce morceau, donc La Fièvre qu'on entend, qui est le premier single tube d'NTM, ça montre à quel point c'est notre époque. Puisque aujourd'hui, quand tu entends Joe Hester interview, il déteste ce morceau, il ne l'assume pas. Justement, c'est un morceau radio.
C'est leur génération.
Exactement.
Génération. Tu sais, regarde, la dernière fois je parlais, quand moi j'avais sorti à la bien à l'époque pour les gens du rap, mais Sopra, putain, refais-nous le morceau kick. Bah, t'imagines à la bien.
Ouais. Alors que c'est du rap à la bien.
Ouais, c'est du rap par rapport à un autre morceau, T'es Malove tout à l'heure, c'est pas du rap, tu vois. C'est autre chose, c'est plus afro. Mais bref, et là, le mec il arrive maintenant, on me dit, ouais, mais ça c'est un classique à la bien. Comme nous, allez, NTM, pour lui, La Fièvre, il n'arrive pas. Pour moi, c'est un classique. Exactement. C'est un classique du rap. Vraiment, c'est une histoire de génération.
Tout à fait. Est-ce que tu es plutôt Taxi, le film, qui se passe à Marseille, bien sûr, ou La Haine ?
La Haine.
Ah, donc une voix pour Paris, quand même.
Ouais, ouais, non, La Haine, moi, quand c'est sorti La Haine, ça m'a... J'ai trop kiffé le message, l'apparition de Cut, l'histoire, tout. Non, La Haine, moi, elle m'a traumatisé. Comment Saïd et Vincent, comment ils jouent, c'est trop.
Classique, évidemment.
Même Edouard et tout.
Et c'est intéressant aussi parce qu'on parle de deux films qui ont aussi deux bandes originales importantes. Alors, il y a la bande originale de Taxi qui était piloté d'ailleurs par Akhenaton, encore lui, un des innombrables projets d'Akhenaton, et La Haine qui n'est pas vraiment la BO du film, mais qui était une bande-son inspirée du film. Est-ce que tu as une préférence entre ces deux albums qui sont deux classiques?
Alors là, par contre, là, ça va être plus la BO de Taxi, parce qu'il y a des classiques dedans. Il y a Troisième œil qui font Testarossa, il y a Shin Pai, Maudits sont les yeux fermés,
morceau extraordinaire.
Incroyable.
Sako, rappeur fantastique.
Mais oui, mais moi, Sako, j'étais au studio avec lui tous les jours, je regardais, c'est incroyable. Je me rappelle, il y avait un morceau de Carré Rouge, je sais pas si tu te rappelles. Et avec Carré Rouge, non, pour moi c'est Taxi, il y avait même le morceau de la FF, il passait partout. Et je crois même qu'ils ont eu une victoire de la musique.
C'est possible.
Ils ont eu une victoire de la musique.
Basil Boli en 1993 ou Ronaldinho en 2005?
Non, tu peux pas me poser cette question. Attends.
Parce que je suis sûr que t'es fan de Ronnie.
Eh oui, mais c'est trop dur. Mais quand même, je suis obligé de dire Basile parce que ça a changé ma vie.
Vraiment?
Mais oui, ça a changé notre vie. Ça veut dire qu'on a eu, déjà qu'on était très fiers.
Donc pour info, c'est lui qui marque évidemment contre le Milan AC en finale de la Ligue des Champions qui donne la première Ligue des Champions.
Qui nous donne la première Ligue des... Voilà, parce qu'après, il y a des trucs, mais on dit que c'est l'IA. On dit que c'est l'IA. C'est pas la réalité ce qui s'est passé l'année dernière. Mais c'est vrai que ça a changé ma vie quand je dis que ça a changé ma vie. Parce qu'en fait, cette période-là aussi... Pour revenir un peu sur la musique, c'est la période où y a IAM qui cartonne un peu, il y a une identité marseillaise, le foot ramène ce truc-là, et nous, on est nourris que par Marseille, à partir de là. Donc du coup, on est tellement fiers d'être marseillais que là, Basile, il appuie dans le monde entier. Oui, vous avez raison d'être fiers d'être marseillais.
Est-ce qu'à cette époque-là, même si tu étais petit, tu avais le sentiment d'être dans la ville la plus cool, quoi? Marseille, il y avait un truc, vraiment une aura.
Mais
autour
de la
ville.
Mais oui, et en plus, pendant au moins longtemps, hein. Ça veut dire que pendant au moins 5-6 ans, après ça, même avant un peu quand même, mais on était les rois du monde, quoi, Marseille. C'est-à-dire, en fait, c'est trop stylé d'être Marseillais. Et ouais. Tous ceux de ma génération ou un peu plus jeunes, que tu croises qu'ils habitent à Paris et tout, ils sont fans de l'OM, pas parce que. Parce qu'ils sont pas. Mais c'est parce qu'il y avait cette période-là, ouais. Il y avait cette énergie-là, cette période-là. Donc c'est vraiment un truc spécial.
Bon, Soprano, ce soir, est notre invité dans La Régulière. Sopra, on le disait, et tu l'as un peu dit finalement tout à l'heure en parlant du champ de Mars comme objectif, il y a quelque chose aussi où ben, on a le sentiment que t'as un peu tout fait. Je sais pas si tu le ressens comme ça, parce que toi t'es le premier concerné, mais t'as sorti plusieurs albums, couronné de succès, en groupe, en solo, t'as fait toutes les salles de France, tous les stades de France, comment on arrive à se remotiver? Mais c'est une vraie question parce que...
C'est une très très grande question.
En fait, il y a un moment où tu te dis, bon ben, qu'est-ce que je vais faire de plus? Je vais refaire un album, je vais refaire une tournée des stades.
C'est une très bonne question parce que c'était la réflexion avant Freedom, justement. On s'est dit, heureusement que j'ai plein de sujets que j'ai envie de faire, des concepts, j'en ai plein. J'ai déjà le prochain album dans ma tête, le concept et tout. Mais en fait... Pour créer de l'événement aujourd'hui, dans mon cas, c'est un peu plus. Il y a des gens, par exemple, dans le subconscient de beaucoup de gens, ouais, mais Soprano, il a déjà fait 3-4 fois le Stade de France. Non, je l'ai fait une fois, doucement. Mmh. Mais c'est dans leur subconscient, on a tellement fait beaucoup de choses ouais. que pour eux, tout ça, c'est déjà fait, c'est normal. Je te donne un exemple. Là, on a eu un problème avec le Stade Vélodrome qui a été annulé parce que justement la pelouse devait être changée et parce que l'OM joue. Heureusement, la Ligue des Champions. Bref, et dans la tête des gens, ben là, on a recalé un peu des dates. Ouais, mais c'est déjà complet, c'est foutu. Tout le monde me demande des invites, c'est déjà complet. Et je suis victime du truc. du truc que dans la tête des gens, non, mais Sopra, ça y est, c'est sûr et certain. Ouais. Et en fait, on arrive à un stade où on se dit, pour créer l'événement, est-ce qu'on revient à un truc comme Freedom? Un truc un peu plus urbain, un peu plus rap, un peu plus conceptuel avec des thèmes, ou est-ce qu'il faut faire encore plus gros? Mais pour faire plus gros, c'est un plus ouais. gros challenge. Le tuyau, il est beaucoup plus réduit, tu vois. C'est,
ouais, bien sûr.
Voilà. Donc, du coup, c'est une réflexion. Le seul truc où moi je me suis concentré maintenant, c'est de trouver à chaque fois des concepts scéniques qui tuent.
C'est là aussi où tu apportes aussi une vraie différence.
C'est là, ça veut dire par exemple en ce moment tout le monde fait des écrans sur scène avec des trucs. Moi j'ai dit non, on va revenir à l'ancienne, on va remettre des décors, on va mettre une tête de la Statue de la Liberté, on a mis des trampolines, on a mis la flamme, on a mis des trucs, un écran qui tombe, tout un concept. Tu as l'impression d'être dans une comédie musicale, mais pourtant je suis en haut de la flamme et je suis en train de te faire ma chanson C24 où ça rappe sec, tu vois, je veux te dire. Donc en fait, chaque fois j'essaie de trouver, pour me motiver, de trouver des concepts encore un peu plus forts, mais sans essayer de chercher à cartonner.
Tu parles de rap justement, et on voit collaborer avec énormément de rappeurs, même sur des artistes qui sont moins identifiés, même s'ils sont très forts. Je pense à Souffrance, par exemple, qui t'a invité, qui est exceptionnel. Ou même toi, tu les invites sur tes albums, notamment, je pense à un morceau avec Limsa, qui s'appelle « Si tu savais ».
On a graillé du 4x4, pas des bus. On a guetté Scarface, pas les tuches. Ah, si tu savais ce qu'on avait vu. ASB.
Si tu savais, donc justement, ça, ce genre de morceau, est-ce que. Évidemment, là, c'est avec des rimeurs, des rappeurs.
Je les aime.
Et je sais que tu les aimes.
Ah, ouais.
Est-ce que c'est aussi un besoin pour toi de. Ok, je suis encore avec vous. Parce que tu sais, parfois, il y a ce truc où tu remplis des stades. On se dit, bon, c'est une pop star, un peu comme ces gens-là qui vont dire, mon Soprano, on l'aime, mais.
Il fait plus le même
son. Exactement.
En fait, moi, je suis dans un délire où, souvent, les gens, on aime bien dire toujours le où. Ça veut dire c'est ou ça. Moi, je suis dans le « et ». Ça veut dire que, par exemple, ce qui est ma définition du rap, c'est ce que font Souffrance, Limsa, c'est ce que fait Jean-Jacques Caballero. C'est mon style, pour moi, le rap. Il y a d'autres gens, ils vont te dire peut-être un truc un peu plus autre chose. Mais pour moi, c'est un peu plus d'afro. Mais ça, c'est ce que moi, j'aime dans le rap. Donc, quand moi, je fais du rap, c'est plus... cette forme-là. Quand je fais des morceaux un peu variété, moi j'aime Balavoine. Donc du coup, ça va être des trucs avec de l'émotion, avec... Mais ça c'est moi. tout ça, c'est moi. Et j'ai l'impression que chaque fois, maintenant un peu moins, parce que je vois le style de rap qui passe à partout et qu'on dit que ça, c'est du rap, je me dis, ben, en fait, ça a cassé, on a réussi à casser un peu les clichés, mais ben, tout ça, c'est moi. Ça veut dire que c'est pas parce que je vais rapper, parce que j'ai fait une chanson avec Patrick Fury, je peux pas faire un morceau avec Souffrance. Et si Souffrance il m'appelle, bien sûr que je vais être au niveau. Et si je vais être avec quelqu'un de la variété, bien sûr je vais être au niveau. Et c'était le truc qui me dérangeait quand j'ai commencé, parce qu'on avait l'impression, moi j'étais rentré dans le rap parce que justement on était libre. Et j'avais l'impression qu'en fait, petit à petit, avec le temps, on était devenus comme les autres. Ça veut dire chacun dans sa case, il faut pas faire ça. J'ai dit, ouais, mais les gars, mais non, à la base, on devrait être libre de pouvoir mélanger les styles, surtout que le rap, on arrive avec des samples. C'est-à-dire qu'on prend et on transforme. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et si on me demande, moi, qu'est-ce qui est pour moi le rap, c'est vrai que le rap, c'est faut qu'il y ait de la rime, il y a de la technique, il y a de la punchline, faut qu'il y ait du sens, faut qu'il y ait des Lego trips mélangés. En fait, c'est un peu tout ce truc-là que j'aime beaucoup, moi, dans le rap. Et pour la variété, il faut qu'il y ait un concept avec un refrain fort. Il faut que le fond, il est tellement... il touche, mais il faut qu'il soit juste. Il ne faut pas que ce soit un truc de niche. Faut que ce soit... Mais c'est ma manière de penser pour les morceaux. Et c'est « et ». Je le répète, ce n'est pas « ou », c'est « et ».
Finalement, c'est le combat de ta carrière, ça, presque. En tout cas, c'est le message de ta carrière, en tout
cas. Oui, et tu sais, la dernière fois, je faisais la comparaison avec un truc. Tu as vu, souvent, on dit, par exemple, moi, je suis comorien. Quand je vais au Comores, on dit que je suis français. Et quand je vais, quand je suis en France, on dit que je suis comorien. Ça veut dire, tu as vu, on est entre ce truc de entre deux chaises. Mais dans le rap, c'est pareil. Dans les gens du rap, mais Soprano, ça y est, c'est de la variété. Dans la variété, ah, Soprano, c'est un rappeur. Tu vois, je suis dans ce truc-là. Ouais. Et au contraire, je trouve que c'est magnifique parce que, du coup, j'ai fait le pont pendant des années, qui fait qu'aujourd'hui, ben, on voit. J'entends SCH, j'ai fait un morceau pour le film de avec
Pagnol.
J'ai dit, ben voilà, on y arrive.
Ouais, et d'ailleurs, il nous disait ici qu'il envisage même que son prochain album soit un album de... Pas de variété, mais en tout cas, qu'il trouve l'équilibre entre rap et variété. Il y va. Quoi.
En plus, il y a un truc aussi, tu vois, c'est intéressant par rapport à son cas, c'est aussi l'âge. Des fois, les gens, ils regardent que mon visage, ils oublient quel âge j'ai.
Oui, c'est ton problème, ça.
Ça, c'est un gros problème. À 46 ans, tu me vois, bien sûr que c'est sûr et certain que je ne suis pas en bas du bloc comme ça. C'est normal, tu vois ce que je veux te dire. Et surtout que je me rappelle à une époque, j'avais tout fait. Tous les feats, tous les rap. Et je m'ennuyais artistiquement, j'ai besoin de me nourrir. Et lui, il arrive à
là,
ce stade-là.
Ouais, tout à fait.
SCH. Tu vois, SCH, il est dans ce stade-là. C'est qu'il va faire un Julius combien
Ça a déjà fait 4 déjà. Ouais.
Ah, il faut qu'il l'explore, il faut qu'il se trompe.
Ouais.
Il faut qu'il se trompe pour pouvoir renaître et faire quelque chose.
Est-ce que tu connais, parce qu'on parlait de rap, est-ce que tu connais le rappeur Jungle Jack?
Eh bien sûr.
Eh bien écoute, je te propose qu'on se mette un morceau de Jungle Jack.
Ah oui. Produit par Jean Jass.
Non, c'est Hologramme,
là. Ah, c'est un autre projet. Ça, c'est le projet l'année dernière.
Exactement, t'as fait. Il a fait un projet avec Jean Jass, qui était excellent aussi. Ouais. Cognac et cigarette. Et là, il a fait un projet avec Hologramme, et on va s'écouter le morceau Stuntman Jack. Bah, c'est parti, let's go. On s'écoute ça, tu vas voir. C'est ciselé, la rime comme tu aimes.
Ah ouais,
c'est
vas-y.
J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir. J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs.
Je rappais rue du retrait avec Lars, mais de la réelle A. Quand j'y repense en vrai, tout a démarré de là. Le A m'a présenté à Bloop et Bloop m'a présenté à Nucky quand il est sorti du star. On a fait un son ensemble, mais on s'est vraiment connecté quelques années plus tard. Le but c'était de devenir riche et faire la musique après. À cette époque, mon gars va Alex, c'était en cavale et garder un fusil chargé. Parce que je suis fier de ce qu'on est devenu. On est toujours pas riche, mais de l'enfer, on est revenu. Je suis fier de la manière dont je fais mes revenus. Plutôt, ce serait la grosse défaite si je retouchais un couteau pour couper autre chose que des steaks. Check, par cette musique, je retrouve ma dignité. Tu perds la tienne quand t'essayes d'imiter. Le style est immaculé, ils vont finir par calculer. Chaque fois je rappe, j'allume un brasier sous leur huc. Je garde un pied calé sur leur nuque. Les meilleurs beatmakers m'appellent pour rafaler sur leur truc. Tu veux rapper comme ça? Va falloir cravacher plus d'air sub. J'essaye de rester rationnel, je peux pas contre mes démons. Si je gagne, je brise des malédictions générationnelles. Entre mes victoires et mes défaites, j'ai un ratio de merde. Augmente mes stats, augmente le thermostat. Comme des collines, où le pêche sort une fiole comme colline. Adrénaline en pique, une grosse dose de sérotonine. Jack, je suis un cascadeur, un stuntman. Pourchasse que le cash ou le sunshine. J'paye des lignes et je prends des grandes rasades. Stuntman Jack, des rimes en cascade. Je mérite une pluie de ruinard. Même si je déboîte dans le sac, ça fait des bruits bizarres. Hein. J'ai fait mes devoirs maintenant, je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs maintenant, je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs maintenant, je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs.
Jungle Jack et Hologramlo, le morceau s'appelle Stuntman Jack.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et donc c'est disponible sur le projet commun Jungle Jack produit par Hologramlo.
On va aller écouter ça direct.
Bon, ça me fait plaisir. Écoute, je propose qu'on parle justement parce que tu viens de Marseille, on l'a dit, on le sait. Mm-hmm. J'avais envie de parler de trois grands albums de rap marseillais.
Yep.
J'en parle. Tu rebondis, si t'as envie, je pense que t'auras envie de rebondir.
Et pour j'espère moi, c'est... qu'on a les mêmes trois. Vas-y.
Alors, j'ai pas dit que c'était les trois meilleurs, c'est trois albums dont j'ai envie de parler.
Vas-y.
Et peut-être qu'on... Peut-être en plus, peut-être.
Oh, il y en a un, c'est sûr et certain. Vas-y,
alors,
vas-y.
Je vais commencer, ce sont des albums d'artistes solo.
Ouais.
Et je commence avec, en 1995, ouais. IAM vient de marquer le rap français avec Ombre et Lumière, et Akhenaten sort son premier album solo, Metek et Math, un disque en noir et blanc, introspectif, presque spirituel. Ici, Akhenaten parle de sa double culture, de ses racines italiennes, de sa foi, de ses doutes. Il transforme le mot Metek, souvent utilisé pour exclure, en symbole de fierté.
Elle te sera racontée comme une fable grecque, l'histoire des Metek et Math et du jeu d'échecs. Nous avons subi la loi des visages pâles, car Math et le Metek pour 10 balles, accompli les tâches et les travaux les plus sales, car Math et le Metek fascinés.
C'est un album d'auteur, un disque de réflexion à une époque où le rap français cherche encore ses repères. AKH prouve qu'il peut être à la fois poétique, social et personnel, et surtout, il donne au rap marseillais sa première voix philosophique.
Moi, seul sur mon rocher, je transpire dans ma lutte sans merci. Pour mieux lui obéir, je combats avec mes démons. Je combats avec mes démons. Enfant déjà, mon esprit était en fusion, je combats avec mes démons.
Tu me disais que t'aurais aimé écouter un brin de haine de cet album.
Ah, un brin de haine, bon celui-là déjà, mais un brin de haine, l'histoire, comment il a décrit, ouais, le message, la fin, t'es dans un film, c'est trop.
Album phénoménal,
ouais.
Et moi c'est un de mes albums vraiment préférés de rap français, je l'ai beaucoup écouté, c'est aussi une question de génération comme tu disais. Et puis il a à une époque où le rap français n'est pas encore intime, c'est un album personnel,
c'est vrai,
ce qui est rare à cette époque-là.
Je crois
encore
même que c'est un des premiers,
je crois que c'est le premier.
Je cherche dans ma tête, ouais. Mais avant c'était où ça copiait très les Américains,
ouais.
Mais lui je crois que c'est le premier album très 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 introverti.
Exactement, ouais. Il parle de ses origines comme on l'a dit, ouais. C'est vraiment, voilà, album exceptionnel.
Ah ouais.
5 ans plus tard, changement d'époque, le ton s'est durci, la rue a pris la parole, et à Marseille, celui qui incarne cette voix brute et lucide, c'est Laura Luciano, bien sûr. Mode de vie, béton style, sort en 2000 après les succès de la Funky Family. Un album sans filtre, un journal intime de la survie.
On dit qu'il est fou, ce monde. Je m'en par contre, merde. Normal, il est fou, ce monde. Et c'est ce que je raconte, frère. Y'a du mouvement dans l'ombre. Tout sont les dans l'ombre. Chez nous, personne n'est dans l'or. Je mets du mouvement dans l'ombre. On dit qu'il est fou, ce monde. Je m'en par contre, merde. Normal, il est fou, ce monde. Et c'est ce que je raconte, frère. Y'a du mouvement dans l'ombre. Tout sont les dans l'ombre. Chez nous, personne n'est dans l'or. Je mets du mouvement dans l'ombre et après.
Sur des productions de Pone, le rat raconte la misère, la débrouille, la fierté, la fraternité, et sa plume est unique, crue, musicale, pleine d'images du quotidien, et surtout il capture une époque, c'est le rap marseillais devient la voix de ceux qu'on n'entend jamais. Ce disque, c'est une leçon d'authenticité.
Y'a rien de pire à mes yeux que trahir, ils m'ont soupçonné, ont même dû frissonner, je tiens à les féliciter, les critiques permettent de se remettre en question, merci à ceux qui m'ont sollicité, je cause en toute simplicité, y'a que dans la zone qu'on retrouve la vraie complicité, à pas les illusions, soyons sur nos gardes et restons.
C'est un blasphème presque de couper ce morceau, mais bon, écoute, il faut qu'on avance dans l'émission.
Mais oui, moi ce que j'aimais beaucoup dans cet album, c'est le travail de Pone.
Exactement.
Ça veut dire les samples qu'il a pris, moi c'est pile poil tous les morceaux avec des années 80 avec lesquels j'ai grandi, il a mélangé avec le mec le plus authentique du rap français.
Ouais.
Wow, c'était trop pour moi.
D'ailleurs, t'as fait un album hommage aux années 80 justement,
oui,
tu
oui,
remets,
oui,
donc
oui.
C'est vraiment là, c'est t'as grandi là-dedans.
Bah, moi j'ai grandi dedans et tous les samples de Pone, même Gloire à l'art de rue, la version originale où il y a la voix de Michael Jackson sur le morceau. Pour moi, c'était... Donc du coup, ça me touche beaucoup quand j'entends des gens qui prennent des samples des années 80.
Justement, le rat, bon, on sait à quel point il est important pour toi, il est important pour le rat français, il est important pour Marseille. Mais parfois, je pense qu'il y a un décalage entre ce que les Marseillais ressentent vis-à-vis du rat et ce que, parce que nous, en plus, on ne le voit pas, comme il est assez rare. Qu'est-ce qu'il représente pour toi?
En fait, le mot juste, vraiment, c'est l'authenticité. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui venaient à l'époque dans son quartier juste pour le voir. Et il le voyait, parce qu'il était au même endroit, il bougeait pas, buvait son petit café, et il allait composer dans sa petite maison, dans son petit appart, il était là, et il accueillait les gens. Et c'est le mec, comme on dit chez nous, il est niais, tu vois.
Ouais.
Il est vraiment niais, et le pire, c'est qu'aujourd'hui encore, il est comme ça. Et ça fait que beaucoup de gens de notre génération l'aiment beaucoup. Les petits, ils le connaissent un peu moins, mais grâce à Jules, ils vont s'intéresser, parce que Jules l'appelle souvent tout dans ses projets. Donc du coup, ça permet aux gens de voir pourquoi on aimait cette légende, lui et son groupe.
Et puis presque 20 ans plus tard, on l'a mentionné, arrive SCH avec Julius. Alors lui n'a pas grandi au Panier, mais à Aubagne. Il a grandi avec IAM, avec la FF, et son album est une synthèse, la plume d'Akhenaton, l'authenticité du rat, mais avec une mise en scène nouvelle.
J'ai perdu des potes, j'ai même plus les fautes. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Mon pote on gravit, on s'arrose. Ici tout pour la famille, Cosa Nostra. Cœur en classe, rappelle-toi l'incendie. Les gens que j'aime, table à mille, je sais qui m'envie.
Le sun se lève et je ne dormais.
Et donc Julius, c'est un disque de cinéma. SCH y invente un personnage, un univers, une esthétique. C'est le rap marseillais qui devient grandiose, qui prend des allures de film noir. Il ne raconte plus seulement la rue, il raconte sa légende.
Tu connais ma bande, on veut tenir le center. C'est tout pour la bande, laissez-moi partir.
Sur le rivage, mes potos sont qui part. Où sont des guitares, guitares, rappelle-toi. Hey, sur le rivage.
Donc Julius qui était le premier volet d'une trilogie, même s'il y a aussi eu un Julius 0, un préquel qui
juste
est sorti
avant,
l'année dernière. Ça aussi, c'est un moment important parce que c'est un album de storytelling, même si bien sûr on y retrouve du SCH dedans. Tu le mentionnais tout à l'heure, est-ce que c'est des albums que tu as écoutés, ceux-ci, les
Julius?
Oui,
après, je suis comme beaucoup, je suis celui qui a écouté beaucoup à 7.
Ah, c'était sa première mixtape. Ouais. De
Et mais le truc, c'est que qui était magnifique à cette période-là, c'est que encore une autre pépite avec un autre style à Marseille. Parce que c'est vrai que IAM sont arrivés, ont amené un style, que ce soit en solo avec Shuriken ou avec Akhenaton. Mais après, il y avait la FF qui ramène un style, il y a nous qu'on arrive avec un style, il y a le J qui arrive avec un style, et il y a le S qui arrive.
SCH, ouais.
Et c'était ce qui est magnifique, le fait qu'il propose un Julius où il arrive avec carrément tout un film avec des interludes comptés et tout, ça a amené quelque chose encore plus riche à notre magnifique sud. Tu vois, ça nous a amené dans le côté rap marseillais, ce côté, en fait, il y a plein de facettes encore.
Ouais, complètement.
Et c'est ça que nous, on était tous contents, et encore aujourd'hui, regarde aujourd'hui ce qu'il est devenu, et c'est magnifique.
Bon. Soprano, fier repentant du rap marseillais, est avec nous ce soir. Sopra, quelques questions pour toi.
Dis-moi tout.
Qu'est-ce que tu fais toujours avant de monter sur scène?
Alors, avant de monter...
Moi, je sais, il y a... Une fois, je t'ai vu sur scène, avant
oui, c'est
de monter,
vrai.
Je sais ce que... Il y a, en tout cas,
c'est vrai.
Un rituel que tu as.
C'est vrai, en plus, tu nous as ramené des bonbons et tout.
Tu manges des bonbons.
Ah ben, c'est vrai. Bon, là, j'ai arrêté parce que je suis en mode sport.
Ah, ok, d'accord.
J'essaie.
Je t'avais ramené d'ailleurs les bonbons que tu aimais bien, c'était les dents de vampire. Là.
C'est ça, celle-là, j'adore trop.
T'adore,
c'est ça. Le coach, oublie, saute ce passage de l'interview, s'il te plaît. Bon. Voilà, qu'il n'entend pas. Mais c'est vrai que moi, ça, c'est mon truc le plus. Après, c'est vrai que nous, bon, bien sûr, j'appelle mes enfants avant. Après, on fait une sorte de prière entre nous. Et après, le moment le plus important, c'est avec l'équipe réduite, c'est on se dit une blague. Chacun travaille une blague et il faut qu'il y ait une blague.
C'est fou ça.
Eh, mais oui, des fois, elle est toute pourrie. Le noir sale, il a commencé, tu es déjà mort de rire. Et donc, quand tu rentres sur scène, tu es déjà dans un bon mood.
Ok.
Voilà, ça, c'est le premier truc.
Et tu parlais tout à l'heure, tu disais que c'était ta sœur qui gérait tes réseaux, etc. Quelque chose qui m'avait marqué aussi, c'est que je crois qu'il y a quelque chose de très familial, même dans l'équipe. Les gens qui. Enfin, ton équipe, au concert, on voit beaucoup de tes frères, tes cousins. Enfin, il y a quelque chose de très, très
c'est ça.
Familial encore aujourd'hui.
Mon manager, Mathéo, que tu connais, et Jamali, eux, c'est mes amis d'enfance. On a monté en Lee Pro. On a monté un Lee Pro.
Qui est ton label.
Qui est mon label, qu'on fait tout avec. Hein. On manage des artistes comme Luan ou comme Alonso. On fait du foot à côté, à droite, à gauche. On fait de l'immobilier. On fait plein de choses ensemble. Ça, c'est le tronc. Après, sur scène, il y a mes deux frères. y a ma sœur qui s'occupe du management aussi. Il y a, comment ça s'appelle, mes cousins qui s'occupent un peu du merch, qui s'occupent un peu du, de la sécu. Il y en a qui s'occupent même dans le foot. En fait, on est plein, on est tous ensemble. Parce que j'avais un slogan que je disais, le succès avec eux ou rien. Ça veut dire que je fais tout avec eux. Même si on se trompe, on va dans un endroit, on fait des choix que je ne suis pas d'accord, mais tout le monde va là-bas, je sais que ça ne va pas marcher, ben j'y vais avec eux. Voilà, c'est ma philosophie.
T'aimerais pas réussir tout seul, ce serait pas drôle, quoi. Ça aurait pas la même saveur.
Ça sert à quoi? Après, il y a des gens, ils aiment ça, mais moi, si mes potes qui sont en face à côté de moi, ils sont pas en train de sourire et s'éclater, ben je m'éclate pas. Donc du coup, c'est un peu compliqué.
Le couplet dont tu es le plus fier?
Ah, très bonne question.
Parce que t'es aussi vu comme un lyriciste, et t'en as sorti beaucoup des couplets.
Il y en a beaucoup qui diraient peut-être que c'est Hiro.
Eh ben écoute.
Ouais, je crois.
Moi, je crois que je dirais Hiro.
Ouais.
Et j'ai envie de l'écouter un petit peu.
Allez.
Yeah, yeah. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent mes rouges, j'aurais été crever les pneus d'un moto à Coluche.
C'est intéressant parce que c'est un morceau de rap, il n'y a pas de débat, tu rappes de A à Z, mais c'est un des morceaux, je trouve, qui aussi a commencé à te faire passer un cap populaire,
ouais.
Sans que ce soit un morceau de pop, en fait.
Mais je vais te dire un truc choquant, c'est mon seul vrai numéro 1 top single.
Ah oui, c'est Hiro.
Ça veut dire c'est Hiro, à la bien je crois aussi, mais Hiro, il est resté, je crois, 6 semaines, numéro 1 partout, tout style musique confondu, alors qu'il dure 6 minutes,
ouais.
Il parle de politique, il parle de politique mondiale, il parle de ma famille, il parle de tout, il n'y a pas de refrain, c'est une vibe de Indila qui arrive et qui nous amène, qui nous fait planer, c'est vraiment, ce morceau, moi, il me confirme que le lyrics ne meurt pas. Ça parle à tout le monde.
Quand c'est peut-être plus fédérateur.
Ouais, le texte, c'est le truc qui reste. C'est ce qui fait des artistes. Pourquoi encore aujourd'hui, même si on ne le voit plus dans les trucs populaires, mais on dira toujours Akhenaton fait partie des gros artistes français.
Ou Oxmo, gens-là.
Toujours. Ouais. C'est parce qu'il y a la plume. Je pense que la plume, c'est le truc le plus important. Et en ce moment, dans le rap mainstream, ça se perd. Par contre, il y a une nouvelle vague de rap, comme je te disais, que j'aime beaucoup, qui est en train de le ramener en avant, et ça, j'adore.
Quelle est la critique la plus injuste qu'on ait faite sur toi?
Que je sais pas qui est. Là, je les regarde et je dis, ah bon, ben ok, d'accord.
Tu le vois, ça? Parce que
non,
des gens
c'est
qui
pas
le savent, qui savent pas.
Les gens, ils savent. Ça, ils savent, c'est plus. Tiens, il le fait pas assez.
Oui.
C'est plus dans ce sens-là.
Ouais.
Mais si on devrait dire un truc. Non, dire pas que je suis pas du rap. Non. Parce que les gens qu'aujourd'hui on dit que c'est du rap et que j'écoute, je suis là, je dis.
Ils chantent plus que toi, en fait.
Mais oui, tu vois, et en plus, même dans les bases, tu vois, ça veut dire que, tu vois, on en parle souvent quand on est hors. Moi, je suis un passionné. Ça veut dire que moi, je fais partie de ceux qui allaient dans les trocs de Lille pour aller chercher des vinyles de tel ou tel DJ qui faisait des remix, des trucs, tatatitatata. Et quand il y a un petit qui arrive, il dit, ouais, mais tu fais pas du rap, tu comprends pas, tu connais pas. Là, j'ai envie de le regarder, je dis, aïe, mais tu sais pas à qui tu parles. Tu es un fou. Ça, c'est le truc le plus injuste qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que quand même, je vais pas cracher dans la soupe. Tous ceux du milieu, ils le savent quand même. Je suis pas fou.
D'ailleurs, c'est la scène aussi de Tout Simplement Noir, ça. Le film de J.P. Tati, qui était assez drôle, d'ailleurs.
Mais moi, elle m'a tué. Elle m'a tué, cette scène. Mais après cette scène, tu sais qu'il y a eu un après. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit mais c'est parce qu'on a vu, parce qu'on t'écoutait quand on était petit, qu'on est parti écouter du rap. Tu vois, eux, ils étaient en mode, voilà, on aime bien Sopra, il y a des morceaux comme En Feu, on écoute, mais quand on le voit dans les interviews et tout, bah, c'est lui qui nous a donné envie d'aller écouter d'autres styles d'artistes, tu vois. Donc, moi, je suis content.
Bon, on mentionnait Alabien il y a quelques secondes, qui est effectivement un de tes plus gros tubes. C'est aussi, moi, un des tubes des années 2000 que j'adore. Qui faisait bien le pont entre rap et entre musique un peu plus pop. Et donc, j'ai envie qu'on se l'écoute maintenant.
Allez, vas-y. Bah, allez,
Soprano.
Si tu me sors tes meilleurs pas de funk, il n'y a pas de
problème. Ah, je promets rien là-dessus. Soprano, à la bien.
Marseille.
À la bien, cousin.
la famille, yeah, yeah.
Envoie le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. La famille, tu as compris. Ma jeunesse passe des nuits à se tuer à PES, à gratter des fesses sur MSN ou MySpace. Elle casse à tirelire pour enrichir Konami. Elle consomme plus d'herbe que les vaches de Kamini. Elle balade son stress en TN ou en Converse. Elle avance dans la vie sans avoir des GPS. Elle perd son calme quand Sarko ouvre la bouche. Quand pour sauver le monde, Bush enfile sa cape rouge. Elle est carlouche, Bougnoul ou Gaori. Elle rêve de vivre en cosmopolitanie. Elle a le monde comme voisin de palier. Et ça s'entend dans sa manière de parler. Elle aime se saper, draguer, chambrer, se taper des barres de rire avec l'amitié. Elle gagne sa vie en nettoyant le McDo. Et quand elle drippe, c'est la joga bonito.
On voit le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les sœurs qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin. Pour toute la jeunesse de France, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Pour mes amis sur MySpace, on le fait. La famille, t'as compris. Nouvelle paire de baskets.
Normal, c'est la vie.
Les grands frères perdent la tête.
Normal, c'est la vie.
Un petite équipe, oh. On rôde en bolide. Oh. Ces mèches qui invitent.
Sur ce blanc, sur les frites.
Un contrôle de flic pour gâcher la night. Je fume pas de shit ni de Marlboro Light. Quand passe une biche, ça tchatche à la hitch. Et sur la corniche, on s'imagine riche. Tu t'es fait pointer en boîte, t'inquiète, y'a du son dans le Clio. Hey oh. Ici dès qu'il est 8h, Hamid nous fait tourner le néo. Hey oh. Ici les Schmitt tag dans la surface, mais je n'ai jamais vu de péno. Hey oh. Et quand ça joue au gymnase, on dirait le Barça.
Oh, tu vois ça. Hey oh.
On voit le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les sœurs qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin. Pour toute la jeunesse de France, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Pour mes amis sur MySpace, on le fait. La famille, t'as compris.
À la bien de Soprano, vrai grand tube du rap français.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Sopra, c'est l'heure des recommandations. Tu m'as donné des recommandations.
Yes.
Et notamment une série qui me fait extrêmement plaisir car la saison 1 s'est finie il n'y a pas très longtemps. Alors. C'est Mobland. Ça, c'est le générique de la, de la série, donc un morceau de Fontaines D.C. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette série dans laquelle on retrouve Tom Hardy, Pierce Brosnan, Hélène Mirren, et qui est une série de Guy Ritchie aussi, il faut le dire.
Oui, voilà. Il est fort.
Il est fort.
Il est fort.
Il maîtrise bien cet environnement-là, l'environnement
anglais,
anglais peu, gangster.
Dark un peu. Après, Guy Ritchie, il en a fait d'autres, un peu décalés, anglais aussi.
Bah, Snatch, à l'époque. Ouais, Snatch, Gentleman aussi,
Gentleman,
le film.
Gentleman, pour moi, c'est moi, j'aime beaucoup Gentleman. Ouais. Mais celui-là, déjà, l'histoire, l'ambiance, tout le truc. Mais Tom Hardy, comment il joue, tu es tout le temps en tension avec lui, parce que tout ce qu'il doit gérer. Et je pense
Harry
que
c'est... de Souza, ouais, c'est ça son personnage.
C'est Harry de Souza.
Iconique.
C'est incroyable. Je pense qu'il faut voir la deuxième saison, mais il part pour être une des séries classiques comme les Breaking Bad, les Sopranos. Il part pour être dans ça.
Moi, en tout cas, je trouve que c'est une excellente première saison. Oui, on va voir, t'as raison, faut voir, après
voir
comment
après,
ça évolue. Ouais.
Mais il part dans cette direction-là.
Ouais.
Mobland, c'est ma surprise, parce que je ne l'ai pas vu venir, je suis tombé par hasard, c'est ma surprise de l'année.
Très bien. Voilà. Tom Hardy, c'est un de tes acteurs, tu le suis, c'est un des acteurs préférés.
Alors, en fait, lui, moi, c'était, comment il s'appelle, le truc de, pas Spider-Man, c'est Venom.
Venom, exactement.
Donc, dans Venom, je le voyais bien, même avant, les films, je sais pas. Et depuis, en ce moment, je suis en train de voir que c'est un assassin. Comment il joue, je trouve qu'il est trop fort. Il fait partie de là, il commence à monter dans mes
temps. Dans ta, ok.
Voilà.
Alors, tu as aussi recommandé un album que je ne connais pas.
Je crois que ça s'appelle.
J'espère bien prononcer. Billy.
Belly.
Belly, pardon. Il s'appelle Borondo, l'album.
Non, tiene sentido, reconecto que sin ti, montarte por otro camino.
pourquoi Billy, qui est cet artiste?
Je veux qu'on retienne ce moment précis parce qu'on va s'en rappeler l'année prochaine, on va s'en rappeler, on dira c'est Soprano qui est... Bon, après il y en a d'autres dans les puristes qui savent, mais alors lui... C'est un jeune qui est latino, hein, qui fait un peu du reggaeton, mais c'est pas que du reggaeton. Quand tu écoutes l'album, il a ce côté déjà dans la voix et dans son style qui est un peu proche de Lil Wayne à l'époque. Ça veut dire même dans ses placements, comment il pose. Et surtout, contrairement à d'autres artistes de reggaeton, il y a beaucoup d'afro. Par exemple, il y a des prods de l'équipe de Rema. Il y a des trucs qui sont très malgaches. Et chaque fois, il va te faire... des mélos ou des comment il va amener ses mélodies, ses placements, il ne les fait pas comme tout le monde. Et en ce moment, sur YouTube par exemple, après les hindous, c'est lui qui fait le plus de vues. Et surtout, là par exemple, là, Shakira l'a appelé, là, Ed Sheeran l'a appelé, je pense que Bad Bunny va l'appeler. Là, c'est le prochain. Je dis juste ça comme ça. J'ai mis la graine. Tu es témoin que c'est moi le premier qui t'ai parlé de lui.
On ressortira ce moment sur les réseaux, etc. Quand il remplira 4 Accor Arena comme toi.
Parce que son album là, déjà, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Ça fait longtemps que j'écoute plus beaucoup d'albums parce qu'il y en a trop. On est comme tout le monde, on est un peu saturé. Lui, ça fait depuis cet été, je n'écoute que son album. Chaque morceau est différent avec un truc. Même comment il amène ses clips, ses visualiseurs, comment il amène son image, comment il amène ses danseurs, comment il amène tout, tout est rap. Tu vois, et rap, reggae. Ouais. Donc du coup, je trouve qu'il fait partie des nouveaux qui... là, je saoule Alonso sur ça. Alonso, il est piqué aussi. Okay. Donc je pense que lui, ça va être...
À suivre.
À suivre.
Soprano, c'est l'heure de la question qui tue. Cette question, en ce moment, j'aime bien la poser. Je l'ai posée à Oxmo, notamment. Elle est simple, mais elle est dure.
Oh,
on vient de parler d'album, on a beaucoup parlé de rap.
Ouais.
Quel est, pour toi, le plus grand album de l'histoire du rap français?
On parlait de ça avec Youssouf Fala. Il disait, est-ce que c'est un album de puriste ou c'est un album de mainstream où il y a le plus de morceaux qui parlent à beaucoup plus de gens et qui nananinanana. Donc du coup, là, on dirait bien sûr l'école du micro d'argent parce que justement, il a tout. Il a tout. Mais quand même, moi, c'est l'album de Shuriken.
Où je vis.
Où je vis. C'est... Chaque morceau, c'est un sujet différent. C'est écrit d'une manière où tu peux rappeler le texte facilement. Les refrains, ils restent dans la tête. Les sujets sont déchirent. Les prods, j'en parle même pas. Moi, pour moi, c'est l'album de Shuriken.
C'est intéressant parce qu'il y a quelques mois, j'étais à Marseille pour interviewer Alonso, que tu viens de mentionner, justement. Et on avait cette discussion-là sur notamment Metek et Mat. Parce que moi, j'adore Metek et Mat,
oui,
etc.
Oui, oui, oui.
Et il me disait, lui aussi, il adore, mais... Entre les deux, il a plus écouté Où je vis que Metek et Mat, qui est aussi de ces deux classiques.
Oh, de ces deux classiques.
Mais c'est vrai que voilà, il avait aussi la même préférence, je crois, que pour l'album de Shuriken qui sort en 97, je crois.
En fait, il faut remettre toujours les trucs dans le contexte. C'est que, par exemple, Metek et Mat est sorti, même dans les choix de prod et tout, c'est une époque où on est un peu plus jeune. Mmh. Donc, pour comprendre les prods, pour comprendre les trucs, alors que l'album de Shuriken, il sort juste... après l'école du micro d'argent, juste avant l'album de Lunatic, juste pendant la période où la FF commence à émerger. Donc nous, on est au milieu.
Vous êtes adolescent,
voilà,
vous êtes en plein
dedans. Il y a Time Bomb en plein milieu. Donc, en fait, on se le prend comme l'album d'Oxmo. J'aurais pu mettre l'album d'Oxmo au Opéra Puccino. J'aurais pu mettre celui-là. Les deux se tapent pour moi. Attention, c'est mes goûts, mon avis. Hein. Mais l'album de Shuriken, c'est...
classique.
C'est trop.
Bon. Soprano, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir, évidemment. On rappelle donc que, évidemment, l'album Freedom est toujours disponible, que le 11, 12, 13, 14 décembre prochain, tu seras à l'Accor Hôtel.
Avec 400 choristes. Je ne sais pas si je te l'ai dit.
400 choristes ?
On a prévu 400 choristes dans le public.
Incroyable. Voilà. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et merci aux personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella. Une émission réalisée par Gaëtan Coy. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Jérôme Ragano et Rémi Sistiaga. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons avec une artiste extraordinaire, Rosalia, qui sera dans l'émission pour découvrir, redécouvrir nos émissions. Tu peux rester jusqu'à
non,
demain.
Non, je reste.
Tu restes.
Elle va faire les. Tu lui dis, je m'appelle Soprano. Comme ça va dans son album.
On verra. À demain, en tout cas. Merci beaucoup, Soprano.